Les affamés de Saint-Denis. Un livret de 68 pages, mais un bien grand témoignage d'une époque dont on ne parle plus à La Réunion. 1940, la Deuxième Guerre mondiale, écrit par Victor de la Rodire, publié en 1977, réédité en 1988, à l'occasion du 250e anniversaire de Saint-Denis. Oublié au fond des archives de notre radio, voilà qu'il est redécouvert à l'occasion d'un tri bienvenu, comme par hasard. Mais le hasard n'existe pas, car au vu des circonstances que nous vivons actuellement, les blocus nous guettent et la famine est peut-être pour demain. Avec une plume agile et poétique, Victor de la Rodire nous dépeint ces temps de misère, avec toutes ces horreurs, tant de combines pour les uns, tant de luttes quotidiennes bouleversantes pour les autres, qui essayent, avec un peu de force qui leur reste, de ne pas mourir de faim. Ce document, ô combien précieux, vient nous rappeler notre fragilité due à notre éloignement. Il nous montre à quel point nous sommes dépendants des bateaux qui nous approvisionnent. On se rappelle cette phrase du général de Gaulle qui disait « La Réunion doit être en autosuffisance alimentaire ». En 1940, dans les campagnes, quoique miséreux et en haillons, peu de gens sont morts de faim. Mais en 2021, La Réunion tout entière est devenue un Saint-Denis. Aussi, chers auditeurs, je vous invite à écouter la lecture de ce petit livre, « Les affamés de Saint-Denis », avec beaucoup d'attention.
La leçon du siècle. Depuis plus de 2 ans, depuis qu'un chef d'État malade, nommé Adolf Hitler, s'est mis en colère contre ses voisins, le monde entier est plongé dans un bain de sang. En Europe, en Asie, en Afrique et en Océanie, des hommes qui ne se connaissent pas, des hommes qui ne se sont jamais rencontrés, des hommes qui ne se sont jamais vus et qui n'ont absolument rien à se reprocher, s'affrontent sur terre, sur mer et dans l'air, et s'entretuent sauvagement comme de véritables bêtes préhistoriques. Les sous-marins des puissances belligérantes sillonnent toutes les mers de la planète et sèment la terreur, la famine, la désolation et la mort. Dans ce déchaînement de violence sans précédent, dans l'histoire au cours duquel 40 millions de personnes vont mourir, aucun navire marchand n'est épargné. Aussi, privée de communication avec l'extérieur, La Réunion se trouve isolée du reste du monde. Pour l'île, c'est le blocus total avec ses conséquences qui ne se font pas attendre. En l'espace de quelques jours, les tissus, les confections, les chaussures, les chapeaux, toutes les marchandises d'importation disparaissent des étalages des magasins que les commerçants transforment aussitôt en épicerie. Puis, au fil des jours, les denrées alimentaires d'importation deviennent de plus en plus rares avant de disparaître totalement du marché local. Chaque branche du commerce se voit à son tour paralysée. Ce sont ensuite les quincailleries et les librairies qui se vident. Le blocus affectera aussi les pharmacies et le paludisme, que l'on combat à peine à l'aide de la quinacrine, reprend de l'extension. En l'espace de quelques mois, toute l'activité commerciale de la colonie a pratiquement cessé d'exister. Dès ce moment, devant une situation alarmante qui se dessine et se précise de jour en jour, la haute administration doit faire face aux événements en assurant d'abord la survie des 221 000 habitants de la colonie par la production locale. La chose est possible, mais il faut prendre des mesures énergiques. La vie sur l'île autonome. Tout commence le 1er septembre 1939. Ce jour-là, à 4h45, les blindés allemands franchissent sans préavis la frontière polonaise en plusieurs endroits, détruisant tout sur leur passage. Dans le même temps, des cuirassés attaquent par surprise le port de Danzig, qui capitule le jour même. Le monde est horrifié. Le 3 septembre à 11h, l'Angleterre, qui se voit menacée elle aussi, devance l'agression de l'ennemi et lui déclare la guerre. Ce même jour, à 17h, elle est suivie par la France qui, à son tour, déclare la guerre à l'Allemagne. La Seconde Guerre mondiale est déclarée. Elle va se terminer au Japon le 2 septembre 1945, après 2194 jours de terreur, dont 2075 pour l'Angleterre et la France. À La Réunion, à cette époque, le gouverneur se nomme Joseph Court et son séjour sera bref. Arrivé l'année précédente pour achever paisiblement sa carrière, il doit faire face à des problèmes imprévus, jamais rencontrés au cours de ses fonctions. C'est lui qui devra annoncer aux Réunionnais, à la radio, la terrible nouvelle et décréter la mobilisation générale. Il devra surtout prendre les premières mesures d'urgence pour assurer une vie décente à la colonie avant de la quitter pour une retraite bien méritée. Son successeur, le gouverneur Pierre-Émile Aubert, 52 ans, arrivé dans l'île en février 1940, mettra en application les décisions et les mesures énergiques d'utilité publique qui s'imposent. Le 22 juin 1940, 8 jours après la prise de Paris par les Allemands, la France dépose les armes. Elle est aussitôt coupée en deux par une ligne de démarcation établie par le vainqueur. La zone occupée et la zone libre. Cette dernière, désarmée, laissée sous l'autorité d'un honorable vieillard de 84 ans, le maréchal Philippe Pétain, sera totalement occupée par les Allemands le 27 novembre 1942. Le gouverneur de La Réunion, resté fidèle au gouvernement du maréchal Pétain, assiste alors, impuissant, au blocus de la colonie par les Anglais, nos alliés d'hier, devenus ennemis selon le traité de l'armistice franco-allemand. Critiqué par certains, approuvé par d'autres, Pierre Aubert restera quand même l'homme qui sauva La Réunion du pire et à qui l'histoire doit rendre hommage. D'abord, la production sucrière est limitée à 60 000 tonnes, quantité amplement suffisante à la consommation locale. Ensuite, 1000 hectares plantés en canne à sucre sont réservés à la fabrication de l'alcool carburant, servant à l'éclairage des maisons et aux moteurs à explosion. Puis, malgré les pleurs et les grincements de dents de quelques gros propriétaires terriens, 9000 hectares de canne sont arrachés pour céder la place à des cultures vivrières. Ces surfaces libérées sont immédiatement affectées. 7000 hectares au maïs, 1500 aux grains oléagineux et 500 aux haricots. Malgré ces sages précautions prises par le chef de la colonie, le maïs moulu, dit maïs de riz, qui a déjà remplacé le riz, introuvable, se fait quand même de plus en plus rare sur le marché local parce que ceux qui ont de l'argent ont déjà constitué des stocks. Afin de décourager les accapareurs de denrées alimentaires et de donner à chacun de quoi ne pas mourir de faim, la population est invitée à déclarer à la mairie ses stocks de vivres. Puis le riz, le maïs moulu dit maïs de riz, le pain, le saindoux et l'huile sont rationnés. Ce rationnement durera jusqu'à bien après la fin de la guerre. Des tickets d'alimentation sont distribués aux familles, à toutes les familles de la colonie. Pour le riz ou le maïs, la ration est fixée selon la catégorie qui est elle-même déterminée en fonction de l'âge et de la profession de chaque individu à 300, 250, 200 et 150 grammes par jour et par personne. Les professions pénibles, docker, bûcheron, forgeron, charpentier, sont classées première catégorie et obtiennent le maximum, soit 300 grammes par jour, tandis que les enfants, classés quatrième catégorie, ne bénéficient que de 150 grammes par jour. Et cette quantité sera réduite par la suite. Au début, tout le monde croit qu'avec le rationnement, chacun pourra sans difficulté avoir sa part de vivre sur présentation du ticket d'alimentation. Mais la réalité est bien différente, cruellement différente. Au prix de la taxation et au ticket, le maïs est introuvable. Mais sans ticket et à des prix exorbitants, on peut s'en procurer chez certains commerçants de Saint-Denis. Devant ce nouveau fléau social, le marché noir, le gouverneur ordonne la création d'une cour criminelle chargée de châtier les contrevenants. Très vite, quelques condamnations sont distribuées, mais les vivres restent quand même introuvables, car le marché noir s'est déjà organisé. Il y a d'un côté les arrêtés du gouverneur, la cour criminelle, les tickets d'alimentation. Ça, c'est la loi de l'autorité. Dans ce camp où il y a surtout des citoyens confiants, ceux qui se nourrissent d'espoir et de confiance. Mais il y a de l'autre côté une autre loi qui protège ceux qui vivent du marché noir et contre laquelle l'autorité est impuissante. Cette loi, c'est celle de l'offre et de la demande. Ceux qui ont les moyens profitent des occasions sans se soucier ni des prix ni des autres. Ceux dont le pouvoir d'achat est réduit se serrent la ceinture, chaque jour toujours un peu plus. On assiste parfois à des scènes de désespoir à la fois bouleversantes et révoltantes. Exemple, ce modeste charpentier de la rue du Grand Chemin dont la femme et les 6 enfants sont sans nourriture depuis 5 jours, gisent sans force sur quelques vieux gonis au fond d'un misérable taudis, et qui se voit forcé de racler ses dernières économies pour acheter au marché noir quelques kilos de maïs, juste de quoi survivre durant 48 heures. Quelque temps après, malgré les efforts désespérés du docteur Octave Desramont, comme sa femme, cet homme mourra de tuberculose pulmonaire, laissant 6 orphelins affamés de nourriture et de justice, abandonnés dans ce monde dominé par la corruption. Pendant ce temps, certains commerçants, pas tous, Dieu merci, quelques-uns seulement, les assassins patentés, accumulent des billets de banque et se font une colossale fortune qui leur permet de s'acheter des producteurs en haut lieu. C'est la triste vérité d'une authentique réalité. Cependant, chez d'autres commerçants, la loi est respectée. Elle est même respectée à la lettre. Le maïs est bien vendu au ticket et au prix de la taxation. Le prix est d'ailleurs affiché en gros caractères visibles depuis la rue, conformément à la loi. Seulement voilà, pour obtenir un seul kilo de cette denrée, le pauvre consommateur est obligé d'acheter contre son gré 1 kilo de pois, 1 kilo de haricots et plusieurs kilos de sucre roux et sale, faute de quoi il n'est pas servi. Cette loi-là, c'est encore celle du commerçant, celle de celui qui domine la situation, celle du plus fort. Quel fossé entre les arrêtés et la réalité, entre la loi et la justice. Ici, l'ouverture d'une parenthèse est indispensable. C'est précisément à partir de ce moment que le pauvre, déjà sans nourriture, sans défense, de plus en plus dupé et frustré, se fait une certaine idée des textes de loi. Or, comme toute action engendre une réaction qui s'exerce toujours dans le sens opposé, la réaction populaire se traduira par la suite par une rancœur au régime et aux hommes au pouvoir. En effet, ce sont précisément ces innombrables frustrés, victimes de la force sans justice, qui ont, par la suite, donné naissance à la Réunion, à un nouveau mouvement politique à la fois révolutionnaire et pacifique. Le Comité républicain d'action démocratique et sociale, le CRADS, fondé par le docteur Raymond Vergès, avec comme objectif principal la lutte pour l'abolition de la frustration et de la discrimination sociale par la décolonisation. Une nouvelle génération de citoyens était née. Elle devait bientôt vite bousculer l'ordre établi et, du même coup, engendrer par réaction une prolifération de politiciens, la plupart dépourvus aussi bien de compétences, d'éducation que d'honneur, mais avides de pouvoir, qui devaient changer le paysage politique, social et humain du jeune département de plus en plus aux prises avec les graves problèmes d'avenir et en tout genre. Le 20 juillet 1941, en présence d'un nombreux public et des autorités civiles, militaires et religieuses de la colonie, le gouverneur Robert inaugure solennellement l'esplanade Maréchal Pétain que les Dionysiens continueront à appeler place du Barachon. Depuis le début de l'année, la rue du Grand Chemin, aujourd'hui rue Maréchal Leclerc, porte déjà le nom de rue Général Danz. Ce même Général Danz qui devait, un an plus tard, s'illustrer par ses atrocités dans Varsovie qu'il fit incendier uniquement pour intimider la population juive de cette ville. Sur les ondes de Radio Saint-Denis, chaque soir à 17h30, un bulletin du jour est diffusé par un talentueux speaker. Ce bulletin du jour ne se compose en réalité que de slogans en faveur du maréchal et de son gouvernement. Afin que cette propagande parvienne à tous les citoyens, un haut-parleur public est installé sur un pylône téléphonique à l'angle des rues Grand Chemin et Charles Gounod, juste au-dessus de la pharmacie Le Bidon. Un autre rond-point du jardin de l'État et ses deux puissants haut-parleurs sont reliés à la station radio Saint-Denis. Aussi, nombreux sont chaque soir les auditeurs qui écoutent le dernier bulletin du jour, avant de rentrer chez eux la tête pleine de belles paroles. Depuis peu, un nouveau slogan est diffusé par Radio Saint-Denis, « Croire et obéir ». C'est le nouveau produit du secrétaire général Jean Rivière. Mais dans l'île, la situation se dégrade quand même. Privés de pain, de riz et de maïs, les prolétaires, de plus en plus affamés, se tournent alors vers une nouvelle source de vie, le manioc. Le convoi de l'espoir. Le manioc est une plante originaire d'Amérique, très répandue à La Réunion, surtout sur les plaines du littoral. Ses racines tubéreuses sont très riches en amidon, produisant le tapioca. Ce sont précisément les racines de cette plante qui sont comestibles. Au début, le manioc venant de Sainte-Clotilde, de la rivière des Pluies et de Sainte-Marie arrive régulièrement à Saint-Denis chaque jour vers midi. Comme d'habitude, depuis bien avant la guerre, cette marchandise est transportée par des charrettes tirées par des bœufs. Elle se déplace en convoi, les unes immédiatement derrière les autres, ce qui permet aux charretiers de se raconter des histoires en cours de route. Arrivés à Saint-Denis, les charrettes se dispersent alors à travers les rues de la ville, qui sont aussitôt éveillées par les cris de ces marchands ambulants. Certaines de ces charrettes arrivent jusqu'au camp Ozou, aujourd'hui Belle-Pierre, où vit dans des taudis écœurants la population prolétarienne la plus défavorisée de la capitale. D'autres se dirigent vers le quartier des Bas de la Rivière, où la clientèle ne manque pas également. Mais la disparition successive dans les épiceries du riz et du maïs a pour effet d'augmenter la consommation de manioc. Peu à peu, les charrettes vidées en cours de route et dans les rues du centre-ville n'arrivent plus au camp Ozou, ni au quartier des Bas de la Rivière. Alors, fatiguées d'attendre la nourriture qui ne vient plus, les ménagères de ces faubourgs se rendent à la rencontre de ces précieuses racines à travers les rues de Saint-Denis. La faim fait sortir les loups des bois. Au camp Ozou, aux environs de l'endroit où se situe aujourd'hui l'usine de traitement des eaux alimentant Saint-Denis, habite un respectable octogénaire usé par une longue vie de pénible labeur. C'est le patriarche du quartier. Il se nomme Jean-Baptiste Bouze et il vit seul avec son fils qui travaille en ville. C'est ce vieillard voûté, tremblant et à moitié aveugle qui se charge d'assurer l'entretien et le ravitaillement de la maison en l'absence du fils qui produit l'argent. À cette époque, les vieux n'ont aucun secours, aucune retraite d'aucun organisme. Ils doivent se battre contre la vieillesse, contre l'infirmité et la maladie s'ils veulent survivre. Monsieur Bouze, qui a beaucoup vécu, a beaucoup d'expérience. Il sait que dans ce monde déchiré, en pleine mutation, il faut s'adapter ou disparaître. C'est la cruelle loi d'une civilisation encore en rodage. C'est pourquoi, chaque matin, vers la même heure, on le voit appuyé sur un bâton cintré qu'il tient de la main droite, tenant une grande tente vide de la gauche, descendre à tâtons le boulevard Lacossade en direction du centre-ville, avec l'espoir d'obtenir quelques kilos de maïs ou même de manioc pour le repas du soir, le seul de la journée. Depuis qu'on le voit arpenter les rues de Saint-Denis, c'est-à-dire depuis la grande famine, on le voit toujours avec le même chapeau melon noir et la même veste de drap noir, usée, dont les poches bourrées de tickets d'alimentation ne se referment plus. Ce n'est que dans le courant de l'après-midi que les usagers du boulevard Lacossade le revoient, faisant cette fois le trajet en sens inverse. Il est si épuisé qu'il n'a plus la force de soulever ses pieds. Il les traîne, et ses vieilles chaussures de cuir, déjà plusieurs fois ressemelées, raclent le sol poussiéreux du trottoir. Parfois, il s'arrête un moment à l'ombre d'un flamboyant en bordure du boulevard, juste le temps d'éponger son front ruisselant de sueur. Puis, résolument, malgré la fatigue, la faim et la déception qui le rongent et qu'il ne parvient plus à dissimuler sous cet accablant soleil, repart tristement vers son misérable refuge. Au balancement de sa tente, suspendue à son bras, on s'aperçoit que, comme d'habitude, elle est retournée vide. Pour lui et pour son fils, cette nuit sera encore une nuit longue et froide.